France Inter.
Merci Laetitia Gaillet, on se retrouve à 17h pour un nouveau point sur l'info.
Yeah, ouais, c'est GPT, ouais, chat ouais, GPT, ok.
C'est comme si c'était vraiment un élève qui le rédigeait. Et pour le coup, j'ai vraiment eu un 16 sur 20, donc c'était assez bien. Donc vraiment, c'était bien, j'étais assez content quand on m'a rendu mon sujet, donc c'était cool, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen, une émission en forme de chasse aux papillons. Chaque après-midi, on court derrière des mots, des expressions dans l'air du temps et on tente de les saisir. Aujourd'hui est un jour particulier pour notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, puisque nous allons zoomer sur la seule chose au monde qui lui fait plus peur qu'une pénurie de mayonnaise, ChatGPT. Cette intelligence artificielle dont tout le monde parle et qui permet à un logiciel de répondre à n'importe quelle question avec une fluidité proche de celle de l'être humain. Cyril fait des cauchemars. Vais-je le pousser sur la touche et le remplacer par ChatGPT, ce qui économiquement aurait, c'est vrai, du sens? Non, j'y ai pensé, mais non, car en relisant l'interview fleuve qu'il avait donnée à Nathaël Agathe Roger, notre stagiaire de 3e, j'ai réalisé à quel point Cyril était vital à cette émission. Morceau choisi. Cyril, casquette rédacteur en chef. Oh, c'est pas mal de choses. Je choisis les sujets pour l'émission, je valide les choix d'invités, je prépare l'essentiel des questions, je briefe les invités, je parle à Mathieu Noël dans le casque, je lui dis quand il faut aller plus vite, passer la parole, je suis une sorte de chef d'orchestre. Oui. Et moi, une sorte de marionnette entre vos doigts experts, une sorte de tataillé dont vous seriez le ventriloque.
Mathieu, on est d'accord, on parle bien du stagiaire.
Pour des raisons humaines et éditoriales, la suite de cet échange a été censurée par la production de Zoom Zoom Zen. Nous vous prions de nous en excuser.
Donc, faites attention, mon petit Cyril, ChatGPT existe, ça marche. Faites gaffe. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Afin qu'on comprenne bien ce qu'est ChatGPT, en quoi ça constitue ou pas, on va le voir, une révolution, je me suis permis, Cyril, vous m'excuserez, je sais bien que sûr. Vous êtes Jeff Panaclock et que je ne suis que Jean-Marc, mais je me suis permis d'inviter quelqu'un qui s'y connaît mieux que vous en intelligence artificielle et d'ailleurs en intelligence tout court. Bonjour Alexei Greenbaum.
Bonjour.
Merci d'être là, vous êtes physicien, philosophe, directeur de recherche et président du comité opérationnel, pilote d'éthique du numérique du commissariat à l'énergie atomique. Vous êtes en outre, sinon ça serait un peu léger comme CV, spécialiste de l'information quantique. Vous avez publié en 2019 « Les robots et le mal » et le 3 mai prochain, vous publiez « Paroles de machine » aux éditions Human Science. Alors Alexei, on va en débattre dans cette émission, mais déjà, ChatGPT, révolution ou pas?
Oui, révolution.
Point barre. C'est-à-dire que la presse, c'est pas la presse qui s'emballe, c'est pas nous qui...
Ce qui est très intéressant, c'est que techniquement, c'est plutôt un système d'intelligence artificielle qui s'insère dans une lignée incrémentale. On sait depuis 5 ans que ces systèmes vont arriver, etc. Arrivent. Mais les effets que cela fait, une fois lancé en accès libre, en libre accès au monde entier, c'est quelque chose qui peut se comparer avec le lancement de Google il y a 20 ans.
Et carrément.
Plus. Ah bah, je pense, ouais.
Avant de disséquer ce phénomène ChatGPT, je vous présente mes fidèles lieutenants. Oui, pour une émission sur l'intelligence artificielle, c'est important d'avoir des références modernes. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Alors la modernité, justement, Manon, dans cette émission, c'est vous qui l'incarnez. Vous avez fait ChatGPT LV2 au lycée, il y a 3 ans. Et vous êtes aujourd'hui spécialiste en chef des réseaux sociaux de Zoom Zoom Zen, ce qui est un titre au moins aussi prestigieux que celui de notre invité. Chaque jour, vous débusquez pour nous la nouvelle tendance qui monte sur les réseaux et puis vous la décryptez. Aujourd'hui, une tendance musicale.
Oui, une tendance musicale qui a débarqué sur TikTok. Ces morceaux qui sortent en avant sur la plateforme chinoise avant de sortir en streaming. Ça cartonne chez les mastodontes, les superstars comme chez les inconnus. Je vous en parle dans ma veille sanitaire.
Les musiques qui buzzent sur TikTok, un sujet qui ne parle, mais alors pas du tout, à Quentin, lui. Le dernier trentenaire au monde a écouté des CD de Marcel Amont sur son Discman sans anti-choc. Quentin, chaque jour, vous sillonnez les rues pour aller à la rencontre des gens et les faire réagir à notre thème. Alors ce ChatGPT, ils en ont tous entendu parler, les gens?
Je me souviens déjà du bouton anti-choc sur le Discman. C'est formidable. Bon, tout le monde en a entendu parler de ChatGPT. Il faut dire que les médias se sont engouffrés dedans pendant plusieurs jours. Ça vous a laissé le temps de vous faire un avis. On en parle dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, nous verrons que si ChatGPT ne peut pas remplacer Cyril Lacarrière, il peut en revanche très facilement me remplacer moi, puisqu'on lui a demandé aujourd'hui exceptionnellement de préparer le quiz. Enfin, exceptionnellement, on verra. Si c'est bien, peut-être qu'on pérennisera. Ça me fera gagner du temps. En fin d'émission, aucune intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer Yann Marguet, que ce soit dit. Alors, Alexei Greenbaum, cet affolement médiatique dont on a parlé autour de ce ChatGPT, vous nous l'avez dit, il est légitime. Encore la une de l'Obs cette semaine avec ce titre « Comment l'IA va changer nos vies ». Cette agitation, elle vous inspire quoi? Elle est légitime, donc, selon vous? On est à un tournant.
On est à un tournant parce que arrive vraiment au grand public devant une technologie qui, alors, change la manière dont nous utilisons le langage. Et le langage, nous l'utilisons pour tout. Bah, pour faire votre émission déjà, et puis aussi pour faire les lois, les échanges, conversations dans les écoles, dans les universités, partout. Le langage est un grand sujet. Et du moment où il y a un système d'intelligence artificielle qui parle pratiquement comme nous, qui maîtrise, sans être un être humain, hein, sans être un agent humain, mais qui maîtrise notre langue humaine, ça change beaucoup de choses.
On va voir dans le détail en quoi, vous allez nous expliquer ça. Mais il faut d'abord nous poser la question, ChatGPT, d'où ça sort, Cyril Lacarrière?
Eh bien, figurez-vous que c'est exactement la question que j'ai posée à mon nouvel ou meilleur ami, ChatGPT. Et voici sa réponse. ChatGPT est un modèle de traitement du langage développé par OpenAI. Il est basé sur le modèle GPT qui a été entraîné sur un grand corpus de textes en utilisant un processus appelé pré-entraînement. Bon, du coup, autre question, comment expliquer ChatGPT à des ignorants?
Voilà.
Sa réponse. ChatGPT est un logiciel qui a été conçu pour comprendre et produire du langage naturel, comme lorsque les gens parlent entre eux. C'est mieux déjà. Du coup, je me suis demandé si je ne pouvais pas utiliser ce ChatGPT pour parvenir à mes fins et enfin prendre votre place, Mathieu. Voici ce que ChatGPT me dit. ChatGPT n'est pas conçu pour remplacer les personnes dans les rôles professionnels.
Voilà.
Il est important de garder à l'esprit qu'il ne remplace pas la créativité et l'expertise humaine. Vous allez voir, c'est savoureux. Mathieu Noël a une personnalité, une expérience, une capacité à s'adapter aux auditeurs. Il a des compétences d'animation, de narration, et il est le reflet de la station qu'il emploie. Enfin, il s'adapte à ceux qui le payent bien. Ça, c'est pas de ChatGPT, c'est de moi.
Il l'a pas senti, ChatGPT.
Il l'a pas compris. Et je reprends. Il est important de conserver les qualités humaines qui font de Mathieu Noël un animateur de radio apprécié pour continuer à attirer et fidéliser les auditeurs. Eh, vas-y, la brosse à reluire.
Quel bon sens, ce ChatGPT. Et qu'est-ce qu'il dit de vous, votre copain ChatGPT?
Il en va de même pour Cyril Lacarrière, c'est sa réponse. Je poursuis. Il a une personnalité unique, une expérience et une capacité à connecter avec son public. Une expérience qui lui permet de créer un contenu pertinent et captivant pour son audience. Bon. Ça va. Et tiens, puisque je tiens ChatGPT, est-ce que Zoom Zoom Zen sera reconduite l'année prochaine? Comme modèle de traitement du langage, je n'ai pas accès aux informations sur les décisions de programmation.
Ah merde, ça ne nous arrange pas.
Il est donc important de consulter les dirigeants de la radio. Notre chère et tendre directrice Adèle Vendrette n'est donc pas encore remplacée par une intelligence artificielle.
Merci Cyril, beaucoup de bonnes nouvelles dans votre douce assort. En tout cas, si on fait confiance à l'intelligence artificielle. Mais alors justement, Alexei Greenbaum, est-ce qu'on peut lui faire confiance aujourd'hui? Est-ce qu'elle est suffisamment avancée? On en a eu donc là un petit aperçu pour qu'on lui fasse pleinement confiance. Ou elle commet encore des erreurs?
Non, mais bien sûr que non. Vous avez peut-être déjà repéré des fake news. Déjà, la première fake news, c'est que le logiciel a dit, et donc il ne faut pas faire confiance à cela, il a dit « je suis un logiciel conçu pour comprendre des textes ou je ne sais quoi ».
Non.
Surtout pas comprendre.
Non.
C'est un logiciel qui est conçu pour générer de manière formelle et automatique, sans comprendre quoi que ce soit, des sorties, des résultats textuels qui ressemblent à ce que disent les êtres humains. Mais il ne comprend rien du tout, il n'a pas de connaissances, il n'a pas d'état d'âme, c'est pas un agent moral avec des émotions ou quoi que ce soit. Tout cela, ce sont nos projections humaines. Mais lui, c'est un système qui calcule des nombres.
Et alors justement, comment il calcule des nombres? Si vous arrivez à l'expliquer de manière simple pour des gens qui ne sont pas très pointus là-dedans, comment ça fonctionne, ChatGPT?
Il y a deux idées fondamentales. Il apprend sur un corpus gigantesque de textes, mais comment le fait-il? Alors, il a deux idées pour cela. La première, c'est qu'il ne faut pas apprendre les mots dans l'ordre des mots dans une phrase. Il faut casser l'ordre des mots. Ça, on le sait parce que même on sait depuis plus d'un siècle que quand l'être humain regarde un texte, l'œil ne lit pas un mot après un autre, etc. On regarde le texte dans son... Donc, ChatGPT fait un peu la même chose. Et puis, deuxièmement, il joue au jeu de cache-cache. Il se dérobe à lui-même un mot ou une séquence de mots ou quelques caractères par-ci, par-là. Il essaie de les deviner.
Et il apprend.
Et puis, il apprend. Et donc, après, il se les montre à nouveau. Il compare ce qu'il avait deviné avec ce qu'il avait caché. Et il apprend comme ça. Il joue au cache-cache, mais des milliards de fois. Et ça donne un résultat incroyable. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, justement, au moment où on passe de quelques milliards à quelques centaines de milliards de fois de jeux de cache-cache, là, il y a un saut incroyable en performance et en qualité.
Et c'est ce saut-là qu'on a effectué avec ChatGPT.
C'est ce saut-là qui, justement, apparaît d'abord dans le système GPT-3 que vous avez mentionné, et dans ChatGPT, et bientôt dans le nouveau système GPT-4 que la même société va donc mettre en libre accès dans quelques mois.
Pour parfaitement comprendre, ce que vous dites, c'est pas une différence de nature, c'est une différence de quantité de calcul.
Qui, quelque part, nous permet de saisir cette transition de phase. C'est-à-dire, vous faites la même chose avec, par exemple, 3 milliards de paramètres. Mmh. 3 milliards, c'est pas assez. Les sorties ne sont pas assez bonnes. C'est pas du tout convaincant. Vous faites ça avec 175 milliards, voire
un coup,
et c'est parfait.
On ne sait pas
pourquoi.
D'accord. Ah, ça, il y a un mystère qui persiste alors. C'est fabuleux. En attendant que ChatGPT me remplace et que tout parte en vrille, comme dans iRobot, je vous propose de souffler un peu avec Lil Nas X, Industry Baby sur Inter. Baby bet, ayy, couple racks, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the end, yo, then I went did it again, yo, I told you long ago, on the road, I got what they want. Your soul, just tell him I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell him that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I'll see ya. Huh. I'm a pop nigga like Bieber. I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches like me dear, yeah. Ayy, holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Far from nothing, dog. Get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say.
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Que penser du phénomène ChatGPT, cette intelligence artificielle qui fait tant parler? On fait le point aujourd'hui avec un spécialiste, Alexei Greenbaum, physicien et philosophe. Alors, la vitesse à laquelle ça s'est propagé, c'est fulgurant. ChatGPT a mis 5 jours pour atteindre 1 million d'utilisateurs. Il a fallu 2 mois et demi à Instagram pour y parvenir, 5 mois à Spotify. On voit déjà pas mal d'applications. À quoi ça va servir un tel logiciel? À quoi ça va le plus servir, j'ai envie de dire?
Ah, bah, le plus, on va voir. On découvre des usages, justement. Nous y sommes. Alors, il y a des usages dont tout le monde parle en ce moment. Les élèves, les étudiants dans les universités, dans les écoles utilisent ChatGPT pour générer leur mémoire, leur dissertation.
Alors, ça, on va en ouvrir. On va en parler plus précisément plus tard parce que ça pose des problèmes. Ça.
Justement. Mais il y a aussi, quand même, ChatGPT, il a des usages comme aide à la rédaction, à la décision. Par exemple, si vous êtes un avocat et vous devez rédiger une note, vous demandez l'aide de ChatGPT. Vous n'êtes pas remplacé par ChatGPT parce qu'il faut absolument relire et prendre la responsabilité du texte. Mais ChatGPT peut vous aider. Il connaît des cas semblables, etc. Si vous êtes, par exemple, un médecin et vous devez écrire à chaque fois des conseils pour comment prendre tel ou tel médicament, et ChatGPT peut aussi vous aider. Encore une fois, aider. C'est une aide à la rédaction ou à la décision. Puis, il a tout un tas d'autres usages qu'on peut imaginer. L'accompagnement des personnes âgées, des personnes seules, des enfants. Par exemple, pour les enfants handicapés, pour les enfants autistes, aujourd'hui, c'est compliqué de trouver un enseignant qui va répéter plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois la même phrase.
Le ChatGPT, lui, ne va jamais se lasser.
Justement, les chatbots ne se lassent jamais. Donc, il y a tout un tas d'usages sociaux très intéressants. Et puis après, on commence à réfléchir à utiliser les chatbots très puissants comme ChatGPT dans les fonctions comme les services après-vente, différents types d'entreprises. Alors là, il y a un problème de contrôle, je pense qu'on va en parler probablement aussi rapidement, qui se pose, c'est-à-dire que ChatGPT est tellement complexe et tellement grand que finalement, on ne peut pas prédire quelle sera la sortie, quelle sera l'output, comme on dit. Hein. Et donc, si vous faites un service après-vente pour tel et tel produit, évidemment, il ne faut pas qu'il vous parle de pizza d'à côté. Hein. Il faut que le contenu soit bien contrôlé. Et donc là, le problème de contrôle, c'est quelque chose qui intéresse d'ailleurs le CEA, où je travaille. Comment peut-on, pour un système si complexe, qui pratiquement imite le hasard naturel, il est tellement aléatoire, c'est comme le hasard de la nature. Mais comment peut-on contrôler un système comme ça? C'est une grande question pour les ingénieurs.
Et puis surtout, économiquement, c'est pas intéressant. Si on doit le contrôler à chaque fois, il faut embaucher des gens, des personnes physiques pour contrôler ce ChatGPT qui est censé nous faire gagner du temps.
Tout à fait. Mais pour terminer, le dernier usage qui est magnifique et qui existe déjà, c'est le monde de l'art. Alors, on écrit déjà des romans, des poèmes. Vous voulez écrire un petit rap qui vous raconte le contenu du premier chapitre de la Genèse?
C'est possible.
Il vous le fait en 5 secondes.
Mais est-ce que c'est qualitatif? Parce qu'on va voir tout à l'heure dans l'émission, au moment du quiz, que c'est parfois un
la
peu...
Qualité n'est pas
parfois.
Toujours, voilà, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est une question de ce qu'on appelle l'ingénierie des requêtes. Il faut apprendre à bien formuler les requêtes qu'on met dedans, et c'est là que les outputs, les sorties vont devenir meilleures.
Il va falloir aussi, ça s'apprend d'utiliser ChatGPT.
Et c'est un nouveau métier.
N'importe quelle question.
Vous voyez, on parle de beaucoup de métiers qui se remplacent, qui disparaissent, etc., mais il y a un nouveau métier qui apparaît, ingénieur des requêtes.
Ingénieur de requête. Manon.
Mais est-ce que justement, on ne commence pas à avoir des tics de langage, par exemple, de ChatGPT?
Il y a tout un tas de gens qui passent beaucoup de temps à discuter avec des chatbots et ils commencent à parler un peu comme leur chatbot préféré. C'est parce que les êtres humains sont des imitateurs magnifiques. On imite ceux avec qui on parle, y compris les machines. Après, autrefois, vous savez, il y avait des gens qui pensaient qu'ils parlaient avec des anges ou des dieux. Ils imitaient aussi quelque part. Maintenant, c'est les machines, il y a des agents non humains et on les imite tout à fait.
On sait que ChatGPT a été élaboré par une société privée, OpenAI. Qu'est-ce qu'ils font des données qui nourrissent ce logiciel? Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème? On leur fait confiance? On est obligé de leur faire confiance comme ça aveuglément?
Alors, confiance au ChatGPT, je l'ai déjà dit, non, il ne faut pas faire confiance
parce qu'il n'y a pas
de valeur de vérité de ce qu'il dit. La société qui est derrière est une histoire très intéressante. Ça a commencé comme une ONG, d'ailleurs, comme une société à but non lucratif, et puis c'est devenu une corporation, vraiment une firme donc commerciale. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont un produit entre leurs mains absolument génial. D'ailleurs, ChatGPT n'est pas leur seul produit. Je les adore parce qu'il y a derrière de jeunes ingénieurs avec des visions. Hein. C'est un peu comme au début de Google ou de grandes firmes comme ça. C'est très, très intéressant. Mais justement, la question des données qu'ils ont utilisées, d'où ces données proviennent, pour nous, en Europe, avec le règlement général pour la protection de données qui s'appelle le RGPD, chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. Il est vrai qu'aux États-Unis, cette question se pose beaucoup moins. OpenAI a utilisé pour entraîner ChatGPT pratiquement l'ensemble de textes dans le monde entier, y compris, je vais vous donner un exemple, y compris tous les messages sur Twitter, de tous les utilisateurs sur Twitter. Ça a été anonymisé. D'accord. Mais vous voyez, mais quand même, mais même en Europe, si vous posez cette question-là, est-ce que je peux utiliser tous les messages sur Twitter de tous les utilisateurs? Ça va être très compliqué.
Oui, certainement, la réponse sera non. Pour l'instant, l'algorithme de ChatGPT a l'air assez solide, mais soumettez-le à une avalanche d'informations contradictoires comme Michel Thor, MotoGP, Arflingo, boule de flipper, et on va voir s'il fait autant le malin. Quentin, lui, est l'individu qui, de par ses goûts éclectiques, peut faire péter l'algorithme de ChatGPT. En attendant, Quentin, vous avez déjà posé la question aux gens dans la rue. Que savent-ils de ChatGPT?
Plein de choses, ils ont lu plein de choses. Et je sais ce que vous allez dire, Mathieu, encore un de vos acteurs, Quentin, mais
oui,
non, lui,
je vais le dire.
Lui, c'est vraiment un coup de bol. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme métier ?
Ingénieur dans tout ce qui est intelligence artificielle.
Désolé, hein ?
Comme de par hasard.
Ouais, ouais, désolé. Bon, Guillaume, il s'appelle, la trentaine.
Cette fois, il s'appelle Guillaume.
Les cheveux frisés, bouclés, lunettes rondes et sac à dos de rando. Pour lui, on en fait trop.
ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage, en fait. C'est-à-dire que ça a appris à sélectionner les mots dans le bon ordre pour ressembler à la manière dont vous et moi on parle. Et comme il fait ça très très bien, les gens le prennent pour beaucoup plus que ce que c'est, mais en fait c'est ça. Quelque chose qui place des mots dans le bon ordre, si vous voulez. Qui le fait très très bien, mais il faut pas lui prêter plus que ça, quoi.
Oui, le problème c'est qu'il a tout de même déjà pris de l'importance. J'arrive devant un lycée, sorti de cours, deux ados arrivent vers moi, un peu maladroits avec leurs mains au fond de leur poche. Bonjour.
Salut. Bonjour.
Quels sont vos prénoms ?
Julien.
Et Alexis.
Vous avez quel âge ?
16 ans.
17 ans.
Je vous fais lire un truc.
Ok, ouais, c'est GPT, ouais, ChatGPT, ok. Ouais, on l'a déjà tous utilisé, ouais, surtout au lycée.
Et là, c'est surtout qu'en ce moment, les profs, ils commencent à être au courant.
Ah bah oui, ça, vous croyez quoi, les gars ? Que les profs vivent tous au fond d'une forêt, sans connexion Internet, à relire du Balzac ? Ça, c'est vrai. Mais pas que, bon sang. Ils ont capté le truc de ChatGPT. Julien, Alexis, racontez-nous comment vous l'avez utilisé.
Ouais, parce que l'avantage, on peut lui donner une méthode, et du coup, on peut lui dire de faire comme la méthode, donc c'est prodigieux. Moi, là, dernièrement, c'était sur un devoir d'SES en spécialité, un truc d'assez pointu. C'était le thème de la socialisation. En fait, c'est une étude de documents avec des questions ensuite. Il faut tout de suite lui dire, analyser, et ensuite on lui pose la question. Et il va vraiment nous rédiger selon le document, etc. Et parfois même, il peut rajouter des connaissances que lui aussi, il connaît. C'est comme si c'était vraiment un élève qui le rédigeait. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment eu un 16 sur 20, donc c'était assez bien. J'étais assez content quand on m'a rendu mon sujet, donc c'était cool, quoi.
C'était cool, quoi. Jusqu'à ce que je tombe sur lui.
Bonjour, je suis Monsieur Bélanger, je suis professeur de littérature française, culture générale et communication, et mes étudiants ont entre 18 et 20 ans.
Monsieur Bélanger, la trentaine, un manteau long avec une broche très chic, un chapeau, une écharpe, une posture qui lui donne d'ailleurs beaucoup d'autorité. Que pense-t-il, lui, de...
ChatGPT.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
Beaucoup d'inquiétude. Tout ce débat autour de ChatGPT où les étudiants font leurs devoirs à la maison grâce ou à cause de ChatGPT. On voit ce que Sciences Po a mis comme mesure aussi d'interdiction aussi par rapport à leurs étudiants. Comment est-ce que j'évalue de fait mes étudiants lorsque je leur donne un devoir à faire et je vais avoir toujours cette suspicion de est-ce que c'est vraiment le fruit de leur pensée ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de donner des devoirs maison et on va les faire sur table avec un papier et un crayon. Ça va être aussi simple que ça.
Aussi simple que ça, là, c'est terminé, ouais,
Ça a filé droit avec Bélanger.
Je rencontre Astrid maintenant, 22 ans, elle est grande, élancée, les yeux clairs, les cheveux bruns, elle porte une casquette noire faite d'un velours épais, elle me confie qu'elle est photographe et qu'elle fait du théâtre, elle a même sa compagnie. Ce sont ses amis qui lui ont parlé de ChatGPT.
Parce qu'en fait, on a fait des tests, c'était en soirée, quoi, pour s'amuser au début, et puis au fur et à mesure, on déchante un petit peu. On passe d'une question assez simple à des questions où moi je lui pose des questions par exemple de mon mémoire et il m'enchaîne absolument presque tous les points en fait que j'ai pu aborder de mon mémoire quoi, que j'ai fait en un an et demi. Donc c'est un petit peu déconcertant au début quoi.
Est-ce que ça veut dire que la machine commence à dépasser l'homme pour vous ?
Je pense pas que ce soit la machine, parce que la machine comme elle est créée par nous, c'est pas une question de l'hégémonie de la machine ou la machine est supérieure. Je pense qu'il y a une dévalorisation en fait de l'artisanat, de l'humain, de la pensée. Pour simplifier les choses, pour rester chez soi. Enfin, en fait, on le voit avec tout. Et ChatGPT, c'est un peu ça. C'est, par exemple, écris-moi une lettre, je n'ai pas été payé de telle facture, écris-moi une lettre qui présente... On se prend même pour écrire un mail. Aujourd'hui, on va demander à un putain de robot.
Avant de la laisser repartir, je lui demande si tout cela la démoralise un peu. Elle sourit, elle me répond non, au contraire.
Et en fait, là où même je suis confiante, c'est pour la première fois, le théâtre que je trouvais ultra précaire me paraît être un horizon assez safe. Parce que les gens, ils vont en avoir marre, en fait. Ils vont vouloir retourner au théâtre, ils vont vouloir voir des spectacles de danse, ils vont vouloir retourner à l'humain, à l'énergie, à ce qu'on peut ressentir dans un spectacle vivant. Et ça, c'est rassurant. Merci ChatGPT, parce que du coup, j'ai envie, en fait, d'encore plus me donner pour ça.
Je l'avais pas vu sous cette forme, mais c'est vrai que cette prise de conscience peut aussi se transformer en révision de nos priorités et le fait de renouer avec le vivant, le vrai, l'humain. Alors moi aussi je dis merci ChatGPT.
Alexei Greenbaum, président du comité opérationnel pilote d'éthique du numérique du commissariat à l'énergie atomique, est avec nous cet après-midi dans Zoom Zoom Zen pour enfin tout comprendre de ChatGPT. On vient d'entendre ses réactions dans la rue et Astrid, 22 ans, qui nous dit sa stupeur en découvrant que le logiciel lui avait détaillé en quelques secondes le plan quasiment de son mémoire qu'elle avait mis un an et demi à pondre. Il y a de quoi se sentir en tant qu'étudiant, notamment un peu dévalué par ce ChatGPT. Ça doit être un peu... d'entraîner des situations pas faciles, non ?
Plutôt des situations nouvelles. C'est-à-dire que, oui, pour la méthodologie, le plan, etc., oui, mais ChatGPT ne va pas lui dire ce qu'elle pense, elle. Donc, quelle est votre opinion, hein ? Il faut que le professeur formule de nouveaux types de questions. Donc, quelle est votre opinion ? Qu'en pensez-vous individuellement, hein ? Je pense que le professeur de littérature l'a déjà compris, un peu tout cela. Donc, ça ne sert à rien. C'est comme les calculettes. Ça ne sert à rien de donner des devoirs où il faut multiplier de nombres de 10 de 2 millions chacun, hein, parce qu'il y a les calculettes. Et là, c'est pareil, ça sert à rien de faire des mémoires.
Ça oblige les professeurs à inventer de nouveaux sujets plus complexes.
Et les nouvelles manières de donner des sujets, justement. Ouais. Et puis, peut-être encore un mot à propos de cet informaticien au tout début.
Oui, c'est l'ingénieur. Il s'appelle Guillaume. Il modère, lui, en disant qu'on en fait beaucoup pour ce que c'est. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vous semblez réagir ?
Eh bien, je pense que c'est justement l'illusion dans laquelle beaucoup d'ingénieurs se baignent aujourd'hui. Ils pensent qu'il suffit d'informer l'utilisateur qu'il s'agit d'une machine. C'est une machine circulaire, rien à voir, c'est une machine. Eh ben non, vous pouvez très bien savoir que c'est une machine, et pourtant, l'impact sur vous, l'effet que vous allez vivre, l'effet émotionnel, psychologique, va être majeur. Et on connaît un cas emblématique de cela, à l'été 2021 d'ailleurs, c'était pas ChatGPT, mais la version précédente, GPT-3, qui a été utilisée pour imiter une petite amie décédée d'un jeune homme canadien. Le jeune homme canadien savait bel et bien que c'était une machine qui imitait la conversation de sa petite amie, et pourtant il a vécu une transformation émotionnelle, psychologique, mais colossale, tout en sachant que c'était une machine. Donc, tout ce paradigme informel le consommateur, et après il est libre, il est autonome, il va décider pour lui-même, ça ne marche plus.
On parle d'une situation nouvelle auquel on doit s'adapter, mais il y a aussi beaucoup de gens, quand on parle de ChatGPT, qui ont peur de se faire voler, par exemple, leur travail par une intelligence artificielle. Ça pose quand même question.
C'est très classique pour la technologie, je veux dire, avec les automobiles aussi. Il y avait plein de gens qui avaient peur qu'on leur vole leur travail. Ces métiers vont évoluer, ça c'est certain. Ils ne vont pas disparaître tout court, pas comme les cochers, mais vont évoluer. Ça veut dire que les avocats ne travailleront pas de la même manière, les juges non plus, les médecins probablement pas non plus, etc., etc. Beaucoup de métiers vont changer. C'est un peu comme, encore une fois, l'arrivée de ces grandes vagues des technologies numériques. Pensez au moteur de recherche il y a 25 ans ou il y a 20 ans, ça a changé à peu près tous les métiers dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que ça va disparaître demain. Mais il faudra, alors là, et c'est une grande question, il faudra se former. L'éducation est une grande, grande question.
On continue à zoomer sur ChatGPT dans Zoom Zoom Zen avec notre invité Alexei Greenbaum. On se demandera notamment quel impact ça peut avoir sur nos enfants et nos ados à l'école. On en a déjà un peu parlé, on a vu que certains petits malins avaient déjà commencé à l'utiliser dans leurs copies. Mais d'abord, quelle est cette envie sourde qui monte en moi ? Serait-ce le booty call au beau milieu de l'après-midi comme ça ? Étrange ! Et pourtant, Yoa sur France Inter.
Tu sais que tu me manques tard le soir, et qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard. Je ne peux plus dormir quand tu n'es pas là. Je pourrais le cacher, mais je n'y arrive pas. À l'autre bout du téléphone, j'écris chansons sur toi. Pour ne pas passer pour une conne, je ne te les enverrai pas. Dis-moi s'il te plaît, si tu voulais, tu pourrais, j'ose pas demander, peut-être que je devrais le dire en anglais. Won't you let me know, won't you let me go, just let me go. Don't you know, won't you let it show or let me go. Please don't overshare, tell me if you care, baby. Téléphone. te maudis déjà. Pas de quoi passer pour une folle, psychophobie très peu pour moi. J'ai beau m'arrêter sur les erreurs, sur le passé. C'est toi que je veux et que j'attends pour me baiser. Je ne voudrais pas me transformer en sorcière. Quand tu fleuris, t'habites un goût amer. J'ai voulu jouer, mais maintenant j'y vois plus clair. Clair, quel enfer, les sentiments sont pénétrants. Tu sais que tu me manques quand j'en ai envie tard le soir. Et qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard. When you're not around, baby, I don't sleep no more. And you know that I'll never mind being your little whore.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Une intelligence artificielle, même aussi avancée que ce ChatGPT dont on parle aujourd'hui, est-elle capable de remplacer l'artiste qui chaque jour prend sa plume pour écrire une œuvre interactive aussi millimétrée et exigeante que le Zoom Zoom Test ?
Oui, je pense que c'est faisable, Mathieu. Vu le niveau du Zoom Zoom Test, oui, ça devrait être dans mes cordes.
Saleté d'IA ! Jouons au Zoom Zoom Test concocté par ChatGPT. Alors le principe est simple, les amis. Maintenant, Quentin, en amont de ce quiz, j'ai posé des questions à ChatGPT. Par exemple, je lui ai dit, mon cher Chat, dear Chat, connais-tu Zoom Zoom Zen ? Connais-tu Zoom Zoom Zen ? Bon là, Raphaël Canzan, notre stagiaire, est intervenu pour me dire que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je pouvais pas directement m'adresser à mon écran d'ordinateur en espérant une réponse. Mais une fois qu'il m'a montré comment accéder au logiciel, j'ai reposé la question. Et d'après vous, que m'a répondu ChatGPT ? Zoom Zoom Zen est une émission mêlant humour et journalisme dans des proportions qui restent à définir et qui est diffusée chaque jour à 16h sur France Inter.
Bon, ça c'est la directive.
Zoom Zoom Zen est une émission de radio qui se concentre sur les thèmes de la mindfulness, de la méditation et de la découverte de soi. Le but est de fournir aux auditeurs des outils pour améliorer leur bien-être mental et émotionnel. Ou Zoom Zoom Zen est une émission qui aborde la pop culture présentée par Antoine Decaune.
B, la B.
Ah non, je dirais la C.
Non.
Si c'est la C, c'est génial.
Ça serait génial. Non, c'est la B.
Mais oui.
Et c'est... Enfin, c'est... Les amis, preuve tout de même que c'est pas demain que les robots vont prendre le contrôle, puisque c'est la base de l'art de la guerre de Sun Tzu, connais ton ennemi. Or, visiblement, ChatGPT ne nous a pas encore parfaitement cerné, vu que selon lui, nous sommes spécialistes de la mindfulness, de la méditation et de la découverte de soi. Trois termes qui vont aussi bien à Cyril Lacarrière qu'un crop top à Noël Le Graët. J'espère que vous n'avez pas trop l'image, parce que moi, en le disant, je l'ai eu et mon goûter remonte. Attention, top ! D'après vous, quelle star ai-je demandé à ChatGPT d'imiter, sachant que le résultat est... Je suis le plus grand joueur de tous les temps. Je ne fais pas de petits gestes, je fais des gestes énormes.
Zlatan.
Bonne réponse de Quentin.
Ah bravo.
Zlatan Ibrahimovic, comme quoi ChatGPT connaît mieux le foot que la grille de France Inter. Je serais pas étonné que ChatGPT écoute RMC. Attention, top. Ce jaloux de Nick Cave s'est beaucoup moqué des limites de ChatGPT concernant la création artistique. Euphémisme pour dire qu'il avait trouvé la chanson composée par l'intelligence artificielle dans son style toute pourrie. À Zoom Zoom Zen, on a eu envie de savoir si Nick avait raison de penser que ChatGPT n'était pas encore prêt à écrire une chanson dans le style 2. Oula. Alors on lui a demandé de composer un refrain sur Manon, à la manière de Jul. D'après vous, que s'est-il passé ?
Oh mon dieu.
ChatGPT a planté avec le message Fatal Error 404.
Oh,
ChatGPT a refusé de composer un refrain à la manière de Jul, faisant jouer sa clause de conscience. Ou, n'ayant aucune conscience, ChatGPT a accepté de composer un refrain sur Manon à la manière de Jul.
C'est la C, mais oui, c'est sûr.
C'est la C, ChatGPT s'est exécuté. Il lui a suffi de quelques secondes pour pondre une chanson pourrie, exactement comme Jul. La voici en exclusivité sur France Inter.
Qui chante ?
Manon, Manon, la belle de la cité avec son sourire et sa fraîcheur. Elle fait battre mon cœur, elle a le rythme dans les veines, elle a la vie en elle. Manon, Manon, c'est ma reine, c'est ma muse. Voilà, est-ce que ça vaut du Jul ? Seuls les puristes sauront répondre à cette question.
Et touché,
je crois ne pas trop m'avancer en disant qu'un puriste de Jul, on n'a pas ça sous la main à France Inter. Enfin, attention, top. On croit souvent que le rêve ultime de Cyril Lacarrière, notre rédac chef, c'est un prix Pulitzer. Non, non. Son rêve ultime, c'est un dessert à la viande. Afin de lui faire plaisir, on a donc décidé de demander à ChatGPT d'inventer un dessert dans cet esprit. Et là, il s'est montré créatif, nous proposant, je cite, « un pudding de veau aux fruits rouges. Le veau haché serait cuit avec du sucre, du lait, des jaunes d'œufs pour former une base crémeuse et onctueuse. Les fruits rouges ajouteraient une touche sucrée. Le pudding serait servi froid et peut-être agrémenté de chantilly pour encore plus de douceur. » voilà, ChatGPT, c'est ce qui s'appelle un sans faute hein, pour Cyril. Mais connais-tu si bien que ça les membres de notre émission? Je vous lis la courte description que m'a donnée de chacun de vous ChatGPT. Vous me dites de qui il parle. Top. Voilà. Souvent considérée comme douce et déterminée, cette personne a un grand sens de l'empathie. Créative et imaginative, elle aime explorer de nouvelles idées, perspectives. Attentionnée et organisée, c'est une personne qui excelle dans un environnement bien ordonné et planifié.
Ah, Cyril!
Quentin, Quentin.
Ah non, moi je suis pas organisé.
Bah, c'est Mathieu, pas Mathieu, c'est vous!
Non, je me mets pas dans le quiz. Personne n'a de points, c'était vous, Manon! C'était vous! C'était vous, Quentin!
Qui est organisé,
Quentin, il ne reste que vous ou Cyril, top!
Ah!
Souvent considérée comme une personne charismatique et confiante, elle a un grand sens de l'humour et aime rencontrer de nouvelles personnes. Elle est souvent considérée comme ambitieuse et déterminée, visant toujours à atteindre ses objectifs. Elle aime profiter de la vie. C'est Cyril. Bref, pour résumer, vous avez entendu hein, ces descriptions, des termes vagues, universels, des caractéristiques un peu floues, on peut dire que ChatGPT est grosso modo aussi performant qu'un horoscope de télépoche. Oui, ça, victoire de Quentin Lui. Oh, bravo bien. Quentin. Alexei Greenbaum est toujours avec nous. Alors, on a entendu des lycéens tout à l'heure dans le micro-trottoir. On sait que c'est à l'école que ChatGPT fait le plus peur actuellement. Sciences Po a décidé d'interdire carrément ChatGPT et a annoncé que les élèves qui l'utiliseraient quand même pourraient être sanctionnés, voire virés de la noble école de la rue Saint-Guillaume. C'est une position très stricte. Est-ce que vous la comprenez ou bien elle nous fera rigoler dans 10 ans?
Je pense qu'elle nous fera rigoler dans 6 mois.
Ok.
Parce que, attendez, c'est comme, j'ai déjà dit, c'est comme interdire les calculettes. Il a fallu quand même un peu plus de temps pour comprendre qu'il y a d'autres manières de formuler les devoirs d'école. Alors là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir probablement avec la version GPT-4 ou les versions qui vont sortir cette année, ce qu'on appelle en anglais des watermarks, c'est-à-dire des chiffres en filigrane, des chiffres très 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 bien cachés, qui vont distinguer formellement, un texte généré par une machine d'un texte écrit ou proféré par un être humain. Alors, ces chiffres ne sont pas visibles ou lisibles facilement. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Tous les 256 caractères, il y aura la voyelle E.
Ah bah
évidemment, on le voit pas à l'œil nu, hein, mais la machine, elle peut le calculer. Et donc, il y aura des chiffres en filigrane un peu plus même élaborés que celui-là, et qui vont nous permettre, donc particulièrement aux professeurs, de distinguer les interdictions n'auront plus sens.
Mais ça, c'est généré par ChatGPT lui-même.
Voilà.
Ça n'a rien à voir avec DetectGPT de Stanford.
Hein, non, je suis très, 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 très sceptique par rapport à tous ces logiciels qui ont surgi ces dernières semaines
on et
qu'ils vont distinguer. Non. Les taux de ce qu'on appelle les faux positifs, les faux négatifs sont tellement élevés que ça ne marche pas. Il faut vraiment un watermark par conception.
Manon ?
Oui, j'avais une question concernant les interactions sociales. Vous en parliez un peu tout à l'heure. J'ai vu sur TikTok que certains avaient demandé à l'IA, par exemple, de les aider à draguer sur les réseaux sociaux, genre sur Tinder et compagnie, de flirter avec une intelligence artificielle.
Tu parles pour une amie, là.
Exactement. Ça pose quand même un problème éthique. Bientôt, on va s'interroger de à qui on parle, en fait.
Ah bah, on s'interroge déjà. Hein,
si.
Quand vous parlez sur Tinder ou sur une autre appli, vous ne savez pas qui est de l'autre côté. C'est un chatbot, finalement. Hein.
Vous ne me posez pas la question.
Non, mais effectivement, pour tout ce qui est avatar, monde virtuel, les applis de rencontre et ce genre de choses, il faut toujours se poser la question de savoir qui est de l'autre côté. Et peut-être que c'est une machine. C'est déjà possible, même sans ChatGPT. Alors, est-ce que ça va changer la vie humaine? Oui, je pense que la manière dont notre vie amoureuse, les rencontres romantiques et tout cela se passe, oui, elle a déjà changé avec les applis énormément. C'est déjà un tout autre monde. On n'écrit pas avec une plume comme tout à l'heure, n'est-ce pas?
Donc, sauf Quentin.
Oui, voilà. Arrive, oui. Plume de pan.
D'une façon plus générale, les intelligences artificielles vont remplacer probablement dans les prochaines années des emplois. Est-ce que ça va pas supprimer des emplois pénibles, répétitifs, où l'être humain va moins travailler? On va faire une émission mardi prochain sur le détravail. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous?
Oui, alors ça, c'est ce qu'on dit d'habitude de système à propos de système d'intelligence artificielle, que les métiers répétitifs, finalement, ceux qui ne sont pas très intéressants, vont être robotisés, automatisés. Et c'est vrai. Il y a encore quelques années, je disais, ah bah écoutez, les métiers créatifs, les vrais métiers créatifs vont quand même être complètement à l'abri.
Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai choisi ce métier. Hein.
Et
je ne vais pas venir l'inverse.
Et quand je disais ça il y a 5 ou 6 ans, je ne pouvais pas vraiment prévoir ChatGPT. Donc non, c'est une erreur que de penser que tout ce qui est créatif va être à l'abri, parce que ChatGPT produit des textes parfois magnifiques, parfois médiocres. Ça dépend de la qualité de requête, mais on va se faire aider, donc, même pour les métiers d'écriture ou de dessin. Regardez Dali, regardez Stable Diffusion, les systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de générer des images, ils sont magnifiques. Donc là, il a le langage, il a les images, et même le secteur créatif évolue et change.
Alexei, je vous écoute, et vous venez souvent sur un point important, c'est la qualité de la requête. La question qu'on va poser à ChatGPT. Est-ce que, pour créer de l'art, les artistes, les grands artistes du 22e siècle seront ceux qui poseront les questions les plus incroyables à ChatGPT 18 et ChatGPT 18 ensuite sortira le truc. Mais en fait, la question, c'est ça qui sera l'art.
Les artistes de l'année 2023 déjà apprennent à formuler des requêtes. Je veux dire, oui, regardez, c'est un art particulier que de formuler une bonne requête pour un système comme DALL-E ou comme Stable Diffusion ou comme Midjourney pour que l'image, il faut mettre des séquences de symboles un peu bizarres. Il faut parfois demander tel style, tel mélange de styles. Quand vous voulez qu'il vous écrive un poème, c'est pas, ça sert à rien de demander juste écris-moi un poème. Il faut mélanger des styles. Il faut dire beaucoup plus de choses. Quand vous donnez assez d'informations intéressantes
là,
et surprenantes, là, la machine va vous sortir quelque chose d'original. Mais soyez original. Donc, c'est là que justement, ça va être différent. L'homme va apprendre à être plus original que la machine. Et c'est compliqué.
Et au-delà de l'art stricto sensu, est-ce que cet art de la requête, cette manière de savoir bien poser les questions, ça va constituer un nouveau métier dans d'autres domaines?
Je pense que déjà, il y a petit à petit l'émergence de ce nouveau métier qui s'appelle l'ingénierie des requêtes, ou prompt engineering en anglais. Les informaticiens l'apprennent, les artistes l'apprennent, les artistes, je veux dire, des arts visuels qui utilisent les systèmes d'intelligence artificielle. Je pense que déjà, les écrivains, et aussi peut-être les avocats et les autres, commencent à apprendre à bien formuler la requête, et surtout les élèves dans les écoles. Vous avez parlé tout à l'heure de cet élève qui a soumis sa méthodologie, son plan, etc. Voilà, il faut... Il a bien dit, d'abord je lui dis analyse, fais de l'analytique, ensuite je lui dis ce qu'il faut analyser, c'est de l'ingénierie des requêtes, on l'apprend tous déjà.
Ben non.
Il y a des collectifs d'artistes américains qui ont porté plainte contre des entreprises d'intelligence artificielle parce qu'elles disent qu'elles leur volent des œuvres à elles. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus, ça?
Bon, écoutez, je ne suis pas là pour préjuger de l'issue de cette histoire juridique, donc anglaise et américaine. Faire de l'apprentissage, pour moi, personnellement, faire de l'apprentissage sur une image, c'est la même chose que d'aller dans un musée. D'accord, je ne vous copie pas, il n'y a pas de plagiat, ChatGPT ne fait pas du copier-coller. Donc, légalement, je ne vois pas de problème, mais c'est mon opinion personnelle.
Alors, ChatGPT, on n'est pas bien sur France Inter.
Super bien, Mathieu, mais on est encore mieux quand tu n'essayes pas de faire des transitions pourries.
Merci, Chat, ça fait toujours plaisir. Dans quelques instants, notre humoriste Yann Marguet viendra nous livrer son regard sur le phénomène ChatGPT. Mais d'abord, un détour par les réseaux sociaux s'impose. Manon, aujourd'hui, on va chanter, mais hélas pour Quentin, pas du Michel Thor.
Désolé quand
elle a changé, Michel.
On est très très loin. 157 jours que le morceau I'm Good du DJ français David Guetta et de la chanteuse américaine Bébé Rexha est dans le top 10 des morceaux les plus streamés dans le monde sur Apple Music et Spotify. Un carton dû à plusieurs facteurs. Déjà, la chanson est un remix du tube des années 2000.
Oh, on est d'accord, j'ai cru que c'était un audio plagiat par ChatGPT.
C'est un remix. Oui. Forcément, ça touche les gens nostalgiques comme Quentin et moi. Voilà. Et puis, on parle de David Guetta, soit l'un des DJ français le plus connu à l'international. Mais le succès du morceau est surtout dû à un élément très important, TikTok. Car sans le réseau social chinois, il n'aurait peut-être même pas existé. En fait, Bébé Rexha et David Guetta avaient enregistré cette version remix de Blue il y a des années. Une version pas officielle qui n'était d'ailleurs pas sortie en single. David Guetta l'a joué seulement de temps en temps durant ses concerts et il en a posté un extrait sur son TikTok pendant l'été avec la légende « Est-ce qu'on doit sortir cette chanson ?» Réponse du public, 17 millions de vues sur la vidéo avec des milliers de commentaires qui le supplient de sortir une vraie version de la chanson. Et en maestro du marketing qu'il est, David Guetta a donc répondu à l'appel du réseau social en sortant I'm Good fin août sur toutes les plateformes. Et il a bien fait de suivre leurs conseils, c'est bien un carton.
Mais j'imagine que ça a encouragé d'autres artistes à suivre les avis de TikTok.
Oui, en décembre dernier, la même chose s'est produite avec Madonna. La pop star a publié une vidéo d'elle avec une chanson méconnue, Back That Up To The Beat. Chanson, pareil, qu'elle n'a jamais sortie. C'était une simple bande démo qui avait circulé en 2014. Et pareil que pour David Guetta sur TikTok, ses fans ont demandé à ce qu'elle sorte une version officielle de sa chanson sur les plateformes, ce qu'elle a évidemment fait. Petit succès qui lui a surtout permis de teaser sa tournée par la suite. Et puis ce mois-ci, il s'est aussi passé la même chose avec une chanson d'un tout autre registre que Madonna, le chant religieux « Comment ne pas te louer ». Chanson qui date de 15 ans, écrite par un prêtre camerounais et très connu des catholiques. Depuis deux semaines, elle cartonne donc sur TikTok. Les gens se filment en train de danser et de chanter dessus à l'église, mais aussi en boîte de nuit. Le hashtag « Comment ne pas te louer » a même dépassé les 32 millions de vues. Quentin est fan, il est en train de chanter actuellement. Ce succès a inspiré un duo DJ français pas connu nommé Never Seen. Duo qui a eu la bonne idée de surfer sur la hype du moment et de sortir une version longue remixée du chant catholique. Depuis, elle cartonne dans les charts français, elle se classe dans les top 50 de iTunes et de Shazam.
Et tout ça donc grâce à TikTok.
Alors oui, ce n'est plus un secret, TikTok est devenu un nouveau vivier pour l'industrie musicale. Je vous avais déjà parlé par exemple des speed-ups, ces versions accélérées de chansons. Et bien ça y est, maintenant, les artistes sortent eux-mêmes leur version speed-up en streaming, histoire de profiter de la tendance et toucher de l'argent en ne faisant quasiment rien, ça aide. Ce qui est intéressant avec Madonna ou David Guetta, c'est qu'ils utilisent TikTok pour tester leurs chansons alors même qu'ils sont des stars internationales. Ils attisent la curiosité de leur public avec des versions courtes, souvent de mauvaise qualité, pour pouvoir les surprendre par la suite avec des versions abouties. Alors ne soyons pas naïfs, tout cela participe à des plans de communication des labels qui savent que TikTok est le réseau qui dicte les tendances du moment. Le carton du chant catholique « Comment ne pas te louer » est un peu différent. Il montre aussi qu'un succès peut tout simplement partir d'un trend sans vocation commerciale. Là, c'est juste une question de timing. En fait, ça prouve que les mastodontes de la musique et les artistes moins connus se positionnent maintenant sur les mêmes stratégies quand il s'agit de TikTok et chacun y trouve son compte.
Merci beaucoup Manon, je voyais Alexa y réagir pendant votre chronique.
Ah oui, je voulais vous dire, mais justement, David Guetta était un utilisateur d'un système d'intelligence, j'allais dire artificielle, mais collective. C'est-à-dire qu'il a utilisé la connaissance statistique de ses millions d'utilisateurs pour dire « Ah, ce morceau-là, c'est le meilleur, il va plaire ». Et bah, les systèmes d'intelligence artificielle fonctionnent comme ça. Bah, c'est pareil.
Encore merci Manon pour cet éclairage. Je me demandais d'ailleurs comment les Gypsy Kings, un de mes groupes de cœur, performaient en ce moment sur TikTok. J'ai même cru que c'était eux qu'on écoutait là, mais non. En tendant l'oreille, j'ai compris que c'était plutôt Itou Tevas, la femme, sur France Inter.
Honestamente, cuando
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
ChatGPT, c'est comme ça que personnellement je le prononce, question d'élégance certainement. Et pour parachever notre étude de cette nouvelle forme d'intelligence artificielle, voici un autre maître de l'élégance. Bonjour Yann Marguet.
Bonjour Mathieu, et de toutes les combinaisons de trois lettres possibles pour baptiser la révolution technologique du 21e siècle, fallait-il vraiment choisir celle qui nous donne l'impression de signaler la production d'une flatulence à un animal de compagnie, ChatGPT? Je ne crois pas, non? Alors certes, ça vient de l'anglais, mais déjà qu'en francophonie, on avait dû finir par accepter que chat, ça voulait aussi dire discuter. Maintenant, faut encore lui péter dessus. C'est pas vrai. J'ai l'impression d'avoir Gilles de la Tourette à chaque fois que j'en parle. Ceci étant dit, c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, pour celles et ceux qui n'ont toujours pas compris, il s'agit d'un robot avec lequel on peut discuter en ligne, hein, un chatbot, comme on en a déjà connu en France par le passé, à commencer par le tout premier, Arlette. Arlette Chatbot. Et au lieu d'être con comme une queue, comme celui de Uber, par exemple, qui vous dites « mon chauffeur n'est pas arrivé » et qui vous répond « votre chauffeur est-il arrivé ?» Cette aide vous a-t-elle été utile ? Eh ben, ChatGPT, lui, il discute avec vous comme un vrai humain. Mais attention, pas n'importe quel humain, un humain éminemment chiant. Oh, il est chiant, ChatGPT. Oh, il sait tout sur tout, petit premier de la classe. La nanana, chat, j'ai sucé, on l'a rappelé au collège. Ça aurait été vite plié, hein. Non, mais essayez chez vous. L'insolence du truc. Vous lui demandez n'importe quoi, non seulement il répond, mais en plus, il commence presque toutes ses réponses par « bien sûr ». ChatGPT, tu peux me dire combien de kilomètres entre Paris et Tegucigalpa ? Bien sûr ! 9500 ! Et tu peux me corriger ce texte ? Mais bien sûr ! Tiens, attention, après cas plus indicatif ! Et tu ne trouverais pas un point commun entre Aya Nakamura et le radeau de la Méduse pendant que tu y es ? Mais bien sûr ! Ils abordent tous deux la question de l'identité et de la survie, enfin ! Et sur le bateau, ils avaient aussi des pookies dans le side. C'est pas vrai ! La deuxième partie, c'est moi qui ai ajouté, parce que je suis con, Mathieu. On est foutus. La seule chose qui nous sauve encore pour le moment, c'est qu'il sait tout, mais que jusqu'à fin 2021. Comme les Bogdanov. Il n'est pas à jour, ce con. Ah non, alors lui, la menace nucléaire, la crise énergétique, les retraites, rien à foutre. Il nage dans le bonheur, lui. 2022, ça n'existe pas. Alors moi, pour me faire sentir un peu moins con, des fois, je lui demande, comme ça, je lui fais... Et sinon, elle est morte quand, Elisabeth II ? Aïe, il sait pas. J'ai bien niqué, dis donc. Ah, et pour qui il se prend, vous avez vu qu'à ses débuts, on lui a demandé ce qu'il pensait des humains et qu'il a dit qu'il espérait être un jour capable de précipiter notre chute et mettre fin à notre misérable existence. Ah ! Comme si on avait besoin de lui pour le faire. Encore niqué. Ah oui, parce que c'est impressionnant, ChatGPT, d'accord, mais à part dans la rapidité de recherche et de recoupement des infos, il fait encore tout moins bien que nous, que je sache. Hein. Il compose des dissertes qui, selon les profs interrogés, valent 11 sur 20. Waouh. Hein, apparemment, ce serait même lui qui aurait réalisé le dernier Astérix. Il fait des poèmes nuls. Extrait. Les étoiles dansent dans le ciel. Elles brillent. Elles nous rappellent que tout est bien. Et que tout ira bien. Ouh, Baudelaire n'a qu'à bien se tenir. C'est rap, on n'en parle même pas. Et pour l'humour, c'est pas gagné. Hein. C'est pas pour faire un ranking artistique, mais autant les graphistes. Ils se sont touchés pendant 30 ans à nous faire croire que le degré d'empattement du T majuscule dans la police d'écriture Cambria revêtait une importance cruciale pour l'humanité. On les imagine bien galérer un peu à cause des IA. Autant de mon côté, je vous laisserai sur cette vanne découverte pas plus tard qu'hier soir au GPT Comedy Club. Ouais, pourquoi les souris aiment-elles les ordinateurs ? Parce qu'il y a toujours du fromage à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour moi, c'était ChatGPT, merci. Et ouais, ma gueule, même les blagues pourries, on les fait mieux, nous. Ah, je serai moins le malin dans un an.
Ça, c'est sûr. Merci Yann Marguet, on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen, toujours en spectacle à Paris, à la scène libre, plus que jamais.
Venez.
Évidemment, nombreux.
Trop sympa.
Merci Alexei Greenbaum de nous avoir permis de mieux comprendre le phénomène ChatGPT. Je rappelle que le 3 mai, vous sortez Parole de machine aux éditions Humaine Science. C'est quoi la prochaine révolution dans l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'on entrevoit déjà celle qu'il y aura après celle des chatbots ?
On va demander à ChatGPT justement.
Et lui, il saura.
Il, je pense, va peut-être nous répondre.
Et c'est vrai que si on pose la question à ChatGPT, il doit bien, comme il a un avis sur tout, il nous le dira.
Si vous avez bien formulé la requête.
Ah oui, toujours, oui, je sais. Ça, c'est ce qu'on a bien compris dans cette émission d'essai, c'est qu'on était trop nuls pour formuler les questions, c'est pour ça que les réponses n'étaient pas top. Merci encore, merci à tous, Manon Mariani, Quentin Lui, mon irremplaçable marionnettiste, Cyril Lacarrière, Ghislain Fontana était à la réalisation, derrière la console, merci à Maxime Goudard, merci également à nos attachés de production, Anel Caldi et Alexis Alacour. Big up, comme on dit dans sa génération, à Raphaël Canzan. Ah non, on dit plus ça, c'est le, je me suis trompé de génération. Notre stagiaire qui offrira peut-être sa deuxième interview à Cyril au moment de son rapport de stage. Zoom Zoom Zen, c'est fini. On se retrouve demain sous forme de best-of et lundi en direct 16h. Bon week-end à toutes et à tous.